Toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour passer ce week-end en votre compagnie.
Putain,
ils veulent avoir leurs examens en fin d'année. C'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat. Voilà.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation de la part du gouvernement ?
Les offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot connerie pour cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé, même je l'éteins à tout jamais. Tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée, hein ? La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Bonsoir, il est 19h04 en ce jour, vendredi 6 septembre, qui marque la rentrée du Canu Info. On est de retour, on est comme vous toutes et vous tous qui rentrez, peut-être qu'il y en a qui sont encore en vacances, profitez-en, ou d'autres qui font rien, et vous avez bien raison de continuer. Attendez, on a un peu rouillé, c'est compliqué, on sait plus trop bien où se trouvent les boutons de la régie, on sait plus trop bien comment parler droit dans un micro, mais on est quand même de retour avec un programme incroyable, avec une musique de fil, écoutez ça derrière nous qui donne un petit peu encore un esprit de vacances. Et d'ailleurs pour commencer, on va vous parler de nos vacances.
Et voilà, et ensuite on vous parlera de la politique, une fois n'est pas coutume, raciste et antisociale à Lyon.
C'est la rentrée.
C'est la rentrée.
Et ensuite ce sera ou une histoire d'insecticide à Villeurbanne.
Et puis c'est la rentrée, la lutte sociale reprend, on vous parlera d'une semaine de grève au collège Henri Barbusse.
Et une rentrée sans nucléaire, c'est pas une vraie rentrée, et donc on vous parlera, comme d'habitude, un peu comme les politiques racistes et antisociales à Lyon, on vous parlera d'irrégularité et de fraude en série chez des fournisseurs d'EDF et d'Orano.
Mais une rentrée sans féministe, c'est pas une rentrée non plus, et du coup on reviendra sur le Grenelle des violences conjugales. Attention, ce n'est pas féministe, mais on vous expliquera pourquoi.
Et puis qui dit rentrée dit tu prends ton agenda, tu notes tout ce que tu as à faire, et du coup on fera un agenda.
Mais voilà, ça fait quand même 2 mois que vous n'avez pas entendu parler du Canu Info du vendredi. Du coup, bonne rentrée. Vous avez passé des bonnes vacances ?
Ouais, ça va. Enfin, franchement, ça allait.
Bah moi, j'ai à moitié bossé et à moitié fait des cartons. Alors du coup, j'ai pas fait grand-chose de mes vacances.
D'ailleurs, si quelqu'un a une camionnette pour aider notre camarade à déménager, ce serait vraiment cool. Signalez-vous au standard de Radio Canu.
Je ne dirai pas mon adresse.
Toi, t'as fait quoi pendant les vacances ?
Ben moi, pas grand-chose. J'ai lu pas mal de bouquins. Notamment, j'ai fait les 10 ans de la revue Z. Ça, j'étais contente. La revue Z, vous pouvez la retrouver dans toutes les bonnes librairies de votre région. Et puis, par exemple, ils avaient fait un numéro quand même sur Vénitieux il y a quelques années qui était hyper intéressant sur les marches sur l'islamophobie qui existe depuis bien longtemps maintenant en France. Et du coup, c'était chouette de passer un petit temps là-dessus. Puis, quand même, on a entendu parler un peu de lutte sociale.
C'est-à-dire on a eu un peu entendu parler social sur l'islamophobie, on a évité d'aller aux rencontres de la France insoumise où apparemment c'était le fait du slip sur on a le droit d'être islamophobe, bande de cons. Mais par contre, certains d'entre nous se sont un peu baladés d'endroit en endroit. Moi par exemple, je suis allé à une manif suite au fait qu'on ait retrouvé le corps de Steve Macayo à Nantes, une manif qui était plutôt belle, en hommage finalement à toutes les victimes tuées par la police ces derniers temps, avec une population diversifiée. Pas mal de gens politisés, d'autres un peu moins, des gens plus ou moins vieux, plus ou moins jeunes qui venaient d'un peu partout. Voilà tout ce que méritait à minimum une personne tuée par la police. On espère qu'il n'y en aura pas trop d'autres dans les prochains mois.
Puis j'ai l'impression que quand même ce qui a un peu occupé la fin août, c'était l'organisation puis la tenue d'un G7 à Biarritz. Alors c'était un peu com contre com, la com gouvernementale contre des gros appels à aller au contre-sommet. Puis un peu se poser la question de quels moyens d'action utiliser pendant ce contre-sommet. J'ai l'impression que il y a des gens qui sont rassemblés, il y a des tentatives de choses qui se sont passées. Il y a une indique qui a été révélée, on peut dire ça, pendant le contre-sommet.
Elle s'est révélée quoi.
Elle s'est révélée, en tout cas ça repose les questions de comment est-ce que les flics arrivent à avoir des informations dans nos lieux d'organisation. On vous invite pour ça à aller lire des textes qu'on peut trouver sur internet. Et puis voilà, reposer encore toujours la question des alliances et des modes d'action.
Ouais, pas mal de questions qui ont été posées là-dessus. Hein. On peut retrouver notamment sur un certain nombre de sites Mutu. Donc les sites Mutu, c'est ceux du réseau auquel appartient Rebellion, dans lequel en fait a été fait référence à ce qui se passait de manière assez douce, mais avec une nouvelle fois peut-être une réactualisation de différences qui peuvent se poser entre, on va dire, modèle révolutionnaire et modèle plutôt citoyenniste d'accompagnement des politiques en place et de modèle réformiste. Et ça s'est pas mal crispé sur la question du pacifisme avec des gens, on peut les citer, hein, notamment les organisateurs locaux, BISI, mais aussi des organisations nationales comme ANV, COP21 ou Alternativa, qui ont une fois de plus joué le rôle finalement d'auxiliaire de police.
Alors on vous parle souvent dans Scanu Info de répression, de moyens d'action, parfois de brisage de vitres, mais est-ce qu'on reste pacifiste ?
Grave.
Santé. Santé.
Quand ils coupent dans les programmes sociaux, qui demandent aux pauvres de travailler plus pour que les riches payent moins d'impôts, on se stache tous ensemble dans les bureaux de la loto, puis on chante des beaux slogans, on est ben belle, on est ben beau, et on reste, on reste, on reste pacifique, oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Quand ils nous demandent gentiment de partir, que les gardes nous approchent un peu pour pas que la situation empire, ils nous sifflent à l'oreille un doux avis d'éviction. Les policiers courent à l'appel pour faire leur job avec passion. Et nous on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Quand l'ancien meute rappelé pour nous protéger des méchants, ils tapent sur le bouclier, ils sont pas bien tête avec nos slogans. Et on se met à genoux, les médias vont prendre des photos, fait qu'on fait des oreilles de lapin. On est rebelles, on est pas frais. On reste pacifique. Ah oui, on reste, pacifique. Vu qu'on fait des signes d'épices, en citoyens et citoyennes, et ils tabassent des militants, ils poussent toute leur violence, ils les arrêtent arbitrairement pour en faire passer trois jours en dedans. Et nous on reste, on reste, on reste pacifique. Oh oui, on reste, on reste, on reste pacifique. Ils nous envoient des flashbombs qui nous explosent dans la gueule. Nos amis se font péter des membres, y'en a même un qui perd un œil. On dérange rien, de rien. On reste pacifique, on casse rien. On veut pas troubler l'opinion publique. On dérange rien, de rien. On reste pacifique, on casse rien. On veut pas troubler l'opinion publique. Quand ils flingueront un cégepien un peu trop idéaliste, on va peut-être se dire, mine de rien, qu'il serait temps qu'on réagisse. Parce que ça reste, ça reste, ça reste, et ça s'explique. On est des régimes fascistes. Parce que ça reste, ça reste, ça reste, et ça s'explique. On est des régimes fascistes. C'est pas des pacifistes qui vont changer l'histoire. On s'est séparés.
ça reste des hosties de flics.
Oh, prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets les plus...
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable...
Ouvrez les yeux, la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons...
Et vous ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici...
Et vous les changez en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, en chantant résiste.
Et non, monsieur le maire, on ne vous laissera pas faire parce que c'est la rentrée et au lieu de se préoccuper de la scolarisation de personnes mineures déjà très mal logées, la préfecture préfère expulser les bâtiments occupés. Ce matin, par exemple, avait lieu un rassemblement pour le droit à la scolarisation des mineurs étrangers devant le rectorat. Pourquoi ? Parce que des centaines de mineurs isolés étrangers de la métropole de Lyon attendent depuis des mois d'être scolarisés au mépris des conventions et déclarations internationales dont la France est pourtant signataire et des arrêtés de la Cour administrative d'appel. Et ça ne semble pas être la priorité du tout de la préfecture qui préfère expulser les bâtiments occupés pour loger enfants et adultes en situation de migration. Avant-hier, mercredi 4 septembre, des personnes migrantes sans abri et leur soutien ont officialisé la réquisition, depuis le 31 août, de l'ancienne clinique de l'Union de Vaux-en-Velin, vide depuis janvier dernier, et l'ouverture du Medipôle de Lyon-Villeurbanne. Cette réquisition s'est faite samedi dernier, et le jour où la veillée était organisée à l'Amphiz, menacée d'expulsion, alors que le bâtiment abrite depuis plus de 20 mois une centaine de personnes. La réquisition du bâtiment vide, du coup, de la clinique de l'Union à Vaux-en-Velin, était une réponse aux politiques racistes et antisociales de la préfecture et de la métropole. Mais, dès la fin d'après-midi mercredi, la réponse a été policière, sécuritaire et vénère. Et oui, les flics ont tenté d'expulser le bâtiment. Des habitants, contraints par les forces de l'ordre, se sont réfugiés au plus haut sur le toit du bâtiment. Les flics ont alors essayé sans succès de les déloger, en dépit du danger que cela fait courir à la quarantaine de personnes bloquées sur ce toit. Plus d'une centaine de personnes étaient réunies dans les rues adjacentes pour soutenir les habitants. À 21h, après plus de 4 heures à résister sur le toit, la police a délogé à coups de matraque les derniers habitants. Elle les a frappés violemment pour faire descendre tout le monde. Certains se sont laissés tomber pour éviter les coups et se sont pris des coups une fois descendus. Les plus amochés ont été relâchés en dernier, le temps d'avoir moins de témoins. Mais 3 d'entre eux ont malheureusement été embarqués. Hier, jeudi 5 septembre, était donc organisé un rassemblement devant le commissariat de Vaux-en-Velin en soutien aux 3 inculpés. Résultat, 3 nouvelles arrestations pendant le rassemblement. Les 3 personnes arrêtées mercredi à la clinique sont sorties et attendent maintenant un procès, alors que les 3 personnes arrêtées hier sont encore en garde à vue. Drôle de réponse face à ces réquisitions qui proposent des solutions concrètes d'hébergement, alors que l'été semble bien fini avec cette semaine qui marque le retour d'une répression dure. Demain, une manifestation est organisée en soutien à l'Amphiz contre son expulsion. Depuis un an, la métropole a assigné les habitants au tribunal. Le 10 mai 2019, le jugement a été rendu. L'Amphiz doit être évacué à partir du 1er septembre 2019. Dès le mois de mai, les soutiens se sont conformés aux procédures préconisées par les services de l'État et aussi du coup les personnes qui étaient hébergées, notamment les diagnostics sociaux, mais seules 30 personnes ont été relogées dans des foyers. Rien n'a été proposé aux autres, dont les familles avec des enfants et des personnes malades. Le 29 août, un huissier s'est présenté pour signifier aux habitants et aux habitantes leur obligation de quitter le bâtiment le 2 septembre. Les soutiens et les personnes hébergées ont immédiatement saisi le juge d'exécution des peines afin de solliciter un délai supplémentaire en l'attente de solutions d'hébergement, comme l'État en a l'obligation. Du coup, les personnes qui habitent l'Amphiz et leurs soutiens restent vigilantes en l'attente de cette audience, puisqu'une expulsion est désormais possible à tout moment. Elles exigent une nouvelle fois un logement pérenne et décent pour l'ensemble des habitants de l'Amphiz sans aucune distinction. Elles demandent le maintien dans les lieux tant qu'aucune proposition sérieuse n'aurait été faite. Leur détermination est à la hauteur de la violence de l'attaque et elles appellent donc à une manifestation demain à 14h au départ de la métropole 20 rue du Lac en direction de la préfecture pour exiger un logement et des papiers pour toutes. C'est un peu aussi des rendez-vous de rentrée qui sont importants avec l'automne puis l'hiver qui s'annonce pour que des personnes puissent être hébergées dignement malgré les politiques racistes et antisociales de la métropole.
Putain, c'est c'est agréable, hein. Mais non, chers auditrices et auditeurs, pas besoin de chercher le moustique qui vous pourchasse dans votre voiture ou sur votre terrasse. En fait, les moustiques, ils sont un peu chez nous, à Canu, là, dans le studio, un peu partout aussi, dehors, dans Lyon, pas de panique, en fait. Puis un peu partout, faut voir, parce que depuis mercredi, les moustiques sont plus très nombreux à Villeurbanne. En effet, dans la nuit du mercredi de cette semaine, une opération d'émoustication, ça fait peur, a été menée dans le quartier des gratte-ciels à Villeurbanne. L'agence régionale de santé, la fameuse ARS dont vous parle assez souvent d'Auvergne-Rhône-Alpes, a demandé cette opération après la découverte d'un cas de dengue chez un riverain. Cet habitant de Villeurbanne avait déclaré cette maladie au retour d'un séjour à l'étranger, il l'a probablement attrapé à l'étranger, mais on ne sait pas précisément si il l'a contracté là-bas ou si c'est lié à une contraction de cette maladie, la dengue, dans la région lyonnaise. L'objectif de cette opération de démoustication était clair, chasser les moustiques tigres capables de transmettre des virus et éviter ainsi que d'autres cas de dengue se propagent, ne surgissent à Villeurbanne. Donc cette opération elle a été effectuée par l'organisme public de démoustication qui s'appelle l'ERAD ce mercredi 4 septembre entre 3h30 et 4h du matin dans le secteur des gratte-ciels à Villeurbanne. Et puis il y a une information qui a été assez modeste en réalité avec un petit encart dans le progrès et puis quelques flyers d'informations qui ont été distribués dans les boîtes aux lettres ou affichés à l'entrée des immeubles concernés dans le périmètre. Sauf qu'on ne sait pas vraiment si tout le monde a eu l'information. On va quand même vous dire ce que devaient faire les riverains touchés. Alors, les habitants concernés par la campagne, cette campagne de démoustication, ils étaient invités, attention, à rester à l'intérieur des bâtiments ou des véhicules le temps de l'opération et jusqu'à une demi-heure après le passage du véhicule. Fermer les fenêtres le temps de l'opération. Mettre les animaux à l'abri. Ne pas laisser sécher de linge dehors. En raison du comportement main-bouche avec des guillemets des enfants, rentrer les jouets. Rincer à l'eau le mobilier de jardin exposé après l'opération. Comme pour les traitements insecticides utilisés pour les cultures, et même si les doses sont moindres, précisait le tract, ne pas consommer les fruits et légumes du jardin dans les deux jours qui suivent le traitement, après ça va, le truc s'est barré, et les rincer à l'eau après consommation. Alors, si c'est des légumes industriels que vous achetez, vous pouvez toujours les rincer à l'eau, mais les pesticides sont à l'intérieur parce qu'on les met bien avant qu'ils poussent. Bref, on s'en fout, c'est une connerie, mais c'était comme dans le tract. En cas d'apparition, de sensation de brûlure, tout vertige, maux de tête ou en nausée, contactez évidemment votre médecin traitant. Enfin, le seul établissement scolaire du secteur décontaminé, l'école Sainte-Thérèse, a eu pour consigne de rentrer le matériel à l'intérieur de ses locaux et de les nettoyer ensuite après l'opération. Hein, toujours pareil, on se demande ce qu'on diffuse puisqu'on demande comme c'est ce genre de choses. Et puis on se demande qu'est-ce qui est arrivé au lieu public. Eh bien, les squares, les rues n'ont pas été trop concernées a priori, les squares Jacques Prévert et des anciens combattants d'Afrique du Nord, un très beau nom de square, situés aussi dans le périmètre, ont été nettoyés à grande eau, a précisé la municipalité, rappelant aussi que le produit utilisé n'est plus actif au bout de 24 heures. Mais en fait, c'est quoi un moustique? On ne sait pas ce que c'est un moustique, on ne sait pas.
Alors, le son devrait partir, mais on ne sait pas ce que c'est.
Mon gars, je faisais ce marche.
Thank you.
mosquito, en vrai, ça c'est Vanessa Paradis et c'est n'importe quoi, ça se reproduit absolument pas dans les rivières, ça se reproduit dans l'eau stagnante, on va en parler tout de suite. Mais avant ça, cette démoustication, en fait, elle a pu avoir lieu alors que la dengue avait été attrapée à l'étranger ou pas, essentiellement parce que les moustiques tigres, contrairement aux moustiques classiques qu'on retrouve essentiellement en France, eh bien, peuvent transmettre ce virus. Les moustiques les plus répandus en France, ceux que vous avez l'habitude de taper, ou en tout cas d'essayer de vous en débarrasser, sont de type Culex pipens, c'est le moment scientifique dans Canu Info, et ils n'ont aucun rôle pathogène. En fait, ils ne sont pas dangereux. Si on ne les aime pas trop, c'est surtout parce qu'ils nous empêchent de dormir la nuit, avec leur bruit désagréable, puis qu'ils nous grattent un peu quand ils nous piquent. A l'inverse, le moustique tigre est diurne. Il agit le jour, à découvert, il ne se cache même pas. Et il peut transmettre tout un tas de saloperies, et notamment la dengue ou le chikungunya, dont on avait parlé il y a quelques années, parce qu'il touchait beaucoup un certain nombre de régions françaises.
Alors moi, on m'a fait croire qu'il ne passait jamais le premier étage. Est-ce que c'est vrai ?
Eh ben, j'en sais rien, j'ai pas de preuves. Je pense qu'on va discuter après, mais effectivement, c'est un animal relativement fainéant. Donc, il est possible qu'il monte pas très haut, mais en tout cas, dans les informations qui ont été diffusées publiquement...
Vous habitez la Croix-Rousse, c'est ça que tu es en train de dire ?
De toute façon, on survivra en haut de la Croix-Rousse, évidemment. En tout cas, installé depuis à peu près maintenant 15 ans, apparemment, dans le sud de la France, le moustique, qui est très petite taille, il est beaucoup plus petit que les moustiques classiques, hein, qui font à peu près un gros centimètre. Il fait entre 5 et 7 mm. Eh bien, il est aussi magnifique, hein, il faut le dire, quand même. Si on l'appelle le moustique tigre, c'est parce qu'il a de jolies écailles noires et blanches. C'est plutôt irisé, c'est sympa. Enfin, apparemment, des gens ne sont pas d'accord ici, mais moi, je trouve ça joli. La présence de ce moustique tigre, en fait, a été observée pour la première fois dans l'agglomération lyonnaise en 2012. Il y a 7 ans, et depuis les insectes prolifèrent d'année en année. À Lyon, ils sont présents désormais dans la plupart des arrondissements selon Gilles Bénard. Donc Gilles Bénard, c'est un entomologiste spécialiste des moustiques au sein de l'ERAD, les gens qui étaient chargés de les éradiquer là. Autre particularité qui justifie ce type d'intervention, les moustiques restent relativement statiques au cours de leur courte existence. Un moustique tigre, en fait, précise ce spécialiste, ça vole peu, il n'effectuera pas plus de 150 mètres durant sa vie, quoi. C'est-à-dire encore moins que le plus mou de vos potes, quoi. En gros, c'est vraiment des branleurs. Mais ils maîtrisent quand même pas mal le stop, donc ils peuvent se déplacer grâce à d'autres moyens, puisque par exemple, ils peuvent se mettre sur des marchandises ou emprunter des automobiles pour se déplacer.
Ah, mais c'est sûrement pour ça qu'ils ne montent pas les étages.
C'est probablement pour ça, c'est des grosses feignasses. C'est-à-dire que si tu montes avec ton caddie, ils peuvent peut-être se mettre dessus, mais oui, effectivement, ça semble relativement crédible, vu qu'apparemment, ils ont la flemme à donf. En tout cas, ils se développent essentiellement autour des habitations. Partout où il y a de l'eau, c'est pas du tout des moustiques qu'on va retrouver dans des zones naturelles. Et ils vont se reproduire plutôt et aimer beaucoup les bidons, les coupelles de fleurs, les gouttières des bouchers, un peu les pieds de parasol aussi par exemple. Ça arrive pas trop à Lyon, personne n'a de jardin. Enfin. En tout cas, les larves sont aquatiques et les femelles peuvent pondre jusqu'à 150 œufs tous les 12 jours. Alors ça donne un peu cet effet de prolifération, mais faut-il vraiment flipper comme cette musique qu'on vous a passée ? En fait, pas vraiment. Hein. Le risque de développer une maladie comme la dengue ou le chikungunya reste très très faible, voire anecdotique. Et moins de 100 cas, tu vois, pour exemple, moins de 100 cas ont été référencés en France depuis 2004. À titre de comparaison, hein, 100 cas de dingue. Hein. La grippe touche quand même 3 millions de personnes chaque année en France. Et en plus, la dengue classique, c'était celle qui a été détectée là, à Villeurbanne, en fait, elle n'est pas très dangereuse. Contrairement à la dengue dont on entend beaucoup parler, qui est la dengue hémorragique, celle qui peut effectivement vous tuer. Je crois que ça tue 2,5% des personnes touchées. Donc le risque le plus important en fait avec ces moustiques reste le même qu'avec la plupart des moustiques qu'on connaît, c'est-à-dire la possibilité de développer une allergie aux piqûres. Enfin bon, bref, est-ce que ce risque modéré justifie vraiment de déverser un insecticide la nuit sur tout un quartier ? Et puis c'était quoi cet insecticide ? Alors le produit qui a été pulvérisé, c'est de la deltamérithrine, je prononce ça très très mal, c'est ce qu'on appelle un insecticide à large spectre. Commercialisé par Bayer, vous savez, ceux qui ont racheté Bonsoto, enfin le leader mondial de tout ce qui tue tout et n'importe quoi dans la nature, sous le nom d'Aqua Caotrine, c'est le nom commercial d'insecticide qui a été utilisé. Alors cet insecticide, comme il a spectre large, eh bien, il a la particularité de tuer tous les insectes. Il n'y a pas que les moustiques, il y a donc les coccinelles, les abeilles, les papillons, les cirfes, les perce-oreilles, etc. Tout ce qui sont les petits animaux qui ont tendance à disparaître actuellement et qui nous entourent. Et l'association écologiste, notamment lyonnaise, en Arthropologia, dénonce l'usage d'un tel cocktail chimique. Hugues Mouret, son directeur scientifique, a ainsi alerté sur Facebook dans les termes suivants. Certes, la dengue, c'est pas cool, bon, c'est quand même vrai, mais comme le rappelle l'Institut Pasteur, la dengue classique, bien que fortement invalidante, n'est pas considérée comme une maladie sévère. Des mesures faciles et peu coûteuses sont à prendre pour lutter contre le développement des moustiques et notamment du moustique tigre. Il est temps de prendre les problématiques écologiques dans le bon sens. L'association demande aux élus de mettre un terme à ces pratiques extrêmement délétères pour le vivant et donc pour l'humanité à court terme, puis de mettre en place une campagne de démoustication écologique en supprimant ce maillage d'espace de reproduction des insectes, les trous d'eau croupie, hein, ce qu'on disait, les bacs de récupération, etc. Elle précise aussi, l'association, enfin, que la biodiversité protège aussi des moustiques. En fait, quand il y a de la vie, quand il y a une mare ou un étang, il y a des prédateurs et les larves de moustiques, en fait, ne font pas long feu, elles se font bouffer par d'autres animaux. Et puis celles qui survivent une fois adultes, si on a une biodiversité importante pour les combattre, eh bien on a des oiseaux, des chauves-souris, des araignées ou d'autres insectes qui vont se charger de réduire les populations. Donc la prolifération de ces insectes qu'on qualifie souvent de nuisibles, elle est en partie liée aux humains. En résumé, écrit l'association, la solution ne réside nullement dans l'anéantissement de ce qu'il reste du vivant, mais dans la compréhension et l'utilisation durable des ressources biologiques, des solutions fondées sur la nature. En gros, un propos assez, assez neutre. Et on peut ajouter que, selon l'entomologiste de l'ERAD, la possibilité d'éradiquer l'espèce est totalement nulle. Et il précise, la solution est de se débrouiller pour que les moustiques n'accèdent plus à l'eau, et ça passe par un changement de comportement des humains. En gros, l'association écologiste et le responsable des ERAD, donc de l'éradication, sont d'accord. Donc globalement, on devrait arriver à un truc plutôt cool. C'est pas ce qui s'est passé. Mais cela dit, plus de vigilance, etc., est nécessaire dans les pots de fleurs pour éviter toutes ces eaux stagnantes. Et à l'heure où les acteurs publics répètent partout et en permanence, ça va notre président, qui veulent protéger la nature, c'était sans doute beaucoup de bruit et un bazooka nocif pour juste un peu de bzzz.
Pour rien. Merci pour ce petit point à la fois environnemental et social, comme quoi les convergences sont aussi au Canut Info. On avait envie de revenir après sur une semaine de grève au collège Henri Barbusse, parce que c'est pas rien de commencer la rentrée par une semaine de grève et encore 90% de grévistes à la fin de la première semaine de rentrée. Peut-être que des personnels du collège Henri Barbusse arriveront dans cette émission avant la fin du direct. Les aléas du direct, c'est pas évident. Vous, en venant, c'est pas à côté des locaux de Radio Canut. Ils étaient encore en réunion quand on les a eus la dernière fois avant de commencer cette émission. Mais peut-être pour vous rappeler déjà qu'il y a une semaine de grève au collège Henri Barbusse depuis et qu'il y a encore 90% de grévistes à la fin de cette première semaine. Et alors, pourquoi est-ce que toutes ces personnes ont voté la grève? Notamment parce qu'elles attendent des réponses du rectorat et du ministère sur des suppressions et d'activités, sur des surpeuplements de classes et sur des suppressions de moyens. Donc, ces personnels sont toujours en grève. Les personnels ont été reçus aujourd'hui par le recteur et ils souhaitaient savoir si celui-ci cautionne la position de M. Charlot, inspecteur d'académie, qui refuse de compter dans les effectifs les élèves à besoins particuliers. Du coup, notamment les élèves des SECPA. Donc, c'est des élèves en difficulté scolaire qui sont dites persistantes et importantes. Et UP2A, donc des élèves qui sont non francophones. Alors, du coup, c'est des personnes qui ne sont pas comptabilisées dans les effectifs de classe. Donc, vous avez des personnes avec des besoins particuliers qui ne sont pas comptabilisées. Pourtant, ceux-là doivent bien être présents physiquement dans les salles de classe et donc pris en charge par les professeurs. Ce qui fait des surnombres de classes extrêmement importants. Donc, contre-information par rapport aux infos de France Inter ce matin et de Jean-Marie Blanquer, notamment. Jean-Michel. Excusez-moi et désolé au Jean-Marie. Du coup, hier, jeudi 5 septembre, ah zut, oui, bref, le principal a proposé de supprimer des dispositifs d'aide pédagogique existants à destination des élèves pour bricoler une situation à l'interne. Donc on se rend compte que quand même, au départ, on ne prend pas en compte des élèves avec des besoins particuliers et que pour réponse à ça, quand les professeurs se mettent en grève, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on décide de supprimer des dispositifs d'aide pédagogique qui sont déjà existants. Donc cette proposition a été évidemment rejetée par les personnels car elle ne vise qu'à se détricoter des dispositifs mis en place pour venir en aide aux élèves et qu'elle allait entraîner une différence d'équité entre les différentes classes. Or, la solution doit venir de l'inspection de l'académie, la solution doit venir du rectorat, la solution doit venir du ministère, à savoir, il faut des thunes en vrai. Et du coup, il faut qu'ils débloquent les thunes et qu'ils permettent aux enseignantes et à tout le personnel enseignant et administratif du collège Henri Barbusse de pouvoir travailler. En effet, le problème résulte directement de la non prise en compte des courriers envoyés par les personnels et par les sections syndicales. Au moins une dizaine de familles souhaitent encore inscrire leurs enfants au collège, alors que les effectifs ont déjà quasiment atteint les seuils fixés par l'inspection d'académie. Les personnels avaient là encore prévenu les services académiques, car ils savent d'expérience que les inscriptions tardives sont nombreuses au collège. Et donc pour les personnels, il est hors de question d'atteindre des effectifs de 27, 28 ou plus dans les classes de ce collège-là. Tout ça pour vous dire que peut-être on aura encore des personnes qui vont nous en parler tout à l'heure, donc on va s'arrêter là pour vous parler de ce mouvement-là. Par contre, vous savez, vous pouvez vous rendre au collège Henri Barbusse pour soutenir cette mobilisation, que aussi du coup ça vous permet de comprendre que ce que vous entendez sur les matinales peut-être des médias mainstream, si vous les écoutez ou si vous lisez les journaux mainstream, c'est faux, et que du coup sur le terrain, c'est toujours les personnes les plus en difficulté dans les quartiers qui sont dits défavorisés qui trinquent, et que ça fait des conditions d'enseignement qui sont pas acceptables et qui sont pas tenables, et que ça toujours continue à creuser l'inégalité dans l'éducation nationale. On va s'arrêter là parce que on a aussi envie de vous parler du nucléaire.
Canu info du vendredi.
Car tu m'es cher, je ne compte pas, je ne compte plus. Comme tu m'éclaires au nucléaire, j'ai le ciel bleu. Tu me ramènes quand je déraille un jour sur deux.
Radio Canu 102.2.
Et oui, donc, comme toute l'année, et donc ça s'est pas arrêté cet été, il y a toujours un peu plein de soucis sur le nucléaire. Et donc là, je vais vous parler d'une petite news qui est tombée à la fin de l'été, puisque ça date du 20 août, et où l'autorité de sûreté nucléaire, autrement dit l'ASN, nous informe silencieusement que la société Aubert et Duval, filiale de la branche Alliage et Eramet, donc qui fabrique de nombreux métallurgiques destinés entre autres à l'industrie nucléaire, que la société présentait un certain nombre de non-conformités entre guillemets dans ses pratiques de gestion. Donc voilà, comme je disais, quand il dit que l'ASN informe, c'est informe, informe, vous avez vu que ça n'a pas fait l'un gros buzz, c'est passé un peu à la trappe. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, cette fameuse société, Aubert et Duval, en fait, elle fournit donc, entre autres, EDF et Orano. Donc, alors, EDF, tout le monde connaît, évidemment. Donc, EDF, maintenant, c'est les centrales nucléaires. Et Orano, qu'est-ce que c'est? C'est une usine de raffinage et de conversion de ce qu'on appelle le Yellow Cake.
Ouais. Orano, avant, ça s'appelait Areva. Et encore avant, ça s'appelait la Cogema.
Ouais, ça a beaucoup changé de nom, mais ils aiment bien changer les noms dans ce genre de truc. Et donc, le Yellow Cake, c'est le joli nom qu'on donne au concentré de minerai d'uranium. Donc voilà, et qui est, pour information, Orano, ça se situe vers Narbonne. Bref, donc ces deux sociétés ont affaire avec la société Aubert et Duval qui leur fournit donc du matériel technique et des fameuses pièces métallurgiques. Et donc l'ASN, après un petit contrôle, s'est aperçu qu'il y avait un traitement inapproprié de certaines fiches d'anomalies internes issues de processus de production, ainsi que des modifications de données de laboratoire. Donc, on pourrait se dire que l'erreur est humaine, que voilà, on peut faire des erreurs, sauf qu'en fait, là, il s'agit carrément de consignes qui visaient à modifier des résultats afin de les rendre administrativement conformes aux exigences techniques attendues. Donc, c'est totalement, c'est plus une erreur, quoi, c'est assumé. Et donc là, je rappelle une fois de plus qu'on ne parle pas de biscuits au chocolat sur lequel le chocolat ne serait pas parfaitement réparti, mais bel et bien de pièces qui se retrouvent dans les fameuses bombes à retardement qu'on a par exemple dans le budget et que EDF appelle amoureusement centrale nucléaire. Donc ce phénomène de pièces un peu défectueuses, ça rappelle, ça rappelle quoi ? Ça rappelle toute l'affaire avec l'usine l'usine du Creusot. Donc vous vous souvenez, le PR, la cuve et tout. Alors après, l'affaire du Creusot, c'est pas que ça. Le Creusot, qui est une charmante petite commune de Saône-et-Loire. Et donc...
Avec l'accent du sud-ouest.
Voilà, ouais. On fait ce qu'on peut, hein. Je sais pas. Voilà. Et donc, bah, dans cette petite commune, il y a une usine donc, qui fabrique des pièces mécaniques. Et il y a eu une affaire... déjà qui a été dévoilé en 2015, où ça a commencé par 400 pièces qui avaient été défectueuses, et maintenant on en est à 1775 anomalies et 449 non-conformités. Ce qui veut dire qu'on obtient à peu près en moyenne 53 irrégularités par réacteur et 2 irrégularités par pièce. Et donc, et notamment, alors là ça nous tient... chaud au cœur, puisque le réacteur du Bugey 3 bat le record du nombre d'anomalies, avec 94 anomalies en tout.
Et bravo
le Bugey. Voilà. Donc, l'ASN a quand même fait son taf, parce que c'est quand même son boulot de signaler tout ça, et il a signalé ses pratiques au procureur de la République. Orano, de son côté, a demandé à ses sous-traitants de procéder à des vérifications. Voilà, et EDF a engagé une revue portant sur plus de 4500 fiches d'anomalies et 700 données issues de laboratoires et d'ateliers métallurgiques, donc sur la période de, entre 2011 et 2018. Donc là, des connaissances de ce qui s'est passé depuis, ont été identifiés 200 écarts. Mais alors, évidemment, le EDF signale que ces écarts-là ne sont a priori pas significatifs. Mais après, comment on peut vraiment les croire avec toute l'affaire qu'il y a eu entre toutes les embrouilles avec le PR et puis toutes les embrouilles justement sur l'affaire de l'usine du Creusot? On se dit, bon, ok, et puis là, ça commence par 200 écarts et ça terminera par on n'en sait rien. Et surtout qu'il y a aussi un gros doute, c'est que ces écarts, on ne sait pas sur quel type de pièce, on ne sait pas sur quel type de centrale, donc il y a encore un gros flou. Et puis, du coup, EDF n'a pas vraiment été sur ce genre d'affaires, et jamais est plutôt discret. Puisque si il s'avère que ça concerne que des centrales nucléaires sont concernées en fonctionnement, parce que là on pourrait dire bon, ça concerne le PR, ça marche pas, bon bah voilà, ça mettra une pièce de plus au pulse pour que ça ne rentre jamais en fonctionnement. Par contre, si ça venait à toucher des centrales en fonctionnement, ça pourrait faire, en fonction des anomalies, ça pourrait faire un peu plus de grabuge. Et c'est donc. Et je répète, donc là, on a signalé 200 irrégularités, mais qui viennent s'ajouter à beaucoup et de nombreuses non-conformités et à presque 3000 anomalies qui sont déjà recensées sur la totalité du parc nucléaire. Et donc, à la suite de ça, il faut quand même signaler que l'association Sortir du Nucléaire, qui a un peu fait ressortir cette affaire, a aussi posé une plainte contre la société Albert Duval, contre EDF et contre X, pour un peu brasser toute cette merde. Voilà.
Il a fait quoi, X ?
Eh ben, merci beaucoup. Je pense que X ne fait malheureusement pas grand-chose et que surtout est beaucoup trop lié au gouvernement. Mais maintenant, on va passer à la rubrique féministe.
Canu, info.
Il est invisible, il est disponible, libre et irréductible.
Attendu, féministe.
Les hommes fiers et féministes et solidaires et en colère.
Canu, info du vendredi.
Et oui, on est un peu en colère avec ce Grenelle des violences conjugales qui est un peu un nouvel enfumage gouvernemental, alors que pourtant on en aurait besoin d'argent et d'action contre le patriarcat. Et du coup, pour ça, on avait envie de vous lire un communiqué de l'UCL. Alors l'UCL, c'est l'Union Communiste Libertaire, ça rassemble ce qui était anciennement la CIGEA et Alternative Libertaire, qui ont écrit du coup sur ce Grenelle. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il va donner, mais déjà on a envie de vous lire leur première conclusion. Indifférence policière, budget dérisoire, des institutions étatiques, tarissement des ressources allouées aux associations. Il semble bien qu'en matière de féminisme et de lutte contre le patriarcat, l'État n'a pas la solution, mais bien une partie du problème. Début juillet, des centaines de personnes se sont rassemblées contre les féminicides à Paris, à Saint-Genis, à Perpignan, à Toulouse. Les violences conjugales demeurent largement impunies en France. Quelques jours auparavant, soumise à la pression des multiples mobilisations féministes, la secrétaire d'État Marielle Schiappa avait annoncé l'organisation d'un Grenelle exceptionnel à la rentrée sur les questions des violences conjugales. Mais, à la différence du gouvernement, le féminisme n'est pas pour nous une opération de communication, c'est une question de vie ou de mort. Tous les deux jours, une femme est tuée. L'année passée, une femme était assassinée tous les trois jours. La majorité des femmes qui ont été assassinées cette année a porté plainte. Depuis que Macron est au pouvoir, ce sont plus de 520 femmes qui ont été tuées parce que femmes. L'État entend y remédier par un budget de 70 millions d'euros contre les violences faites aux femmes, soit environ 1 euro par habitante. Dans les faits, le gouvernement fait partie du problème. Le gouvernement a confirmé le contenu de la réforme des retraites, ayant pour conséquence un appauvrissement général des pensions des femmes, les mettant toujours plus sous la dépendance de leurs compagnons et les fragilisant face aux violences. Les places d'hébergement pour les femmes, et notamment les femmes victimes, continuent d'être fermées. La casse effective de l'assurance chômage va pousser de nombreuses femmes hors du champ d'indemnisation. Le gouvernement a réduit les subventions pour le planning familial, l'une des principales associations de lutte contre les violences, allant jusqu'à 30% dans certains départements. Le silence est le plus total sur la mort de Zined Redouane, tuée par les forces de la police. À la lumière de l'ensemble des mesures qui viennent d'être prises par le gouvernement, le Grenelle se révèle pour ce qu'il est, de l'enfumage, alors qu'une femme sur 10 qui subit des violences conjugales et bien souvent se retrouve seule et sans recours. Les responsabilités de l'État sont accablantes. Notre résistance doit être totale. L'Union communiste libertaire appelle donc à soutenir et relayer les revendications des 35 familles unies, dont une sœur, une fille, une mère, une cousine, a été assassinée parce que femme. Et du coup, qu'est-ce qu'elle revendique ? Elle revendique l'inscription du terme féminicide dans le code pénal en tant que crime machiste et systémique. La mobilisation de la société tout entière sur ce sujet, médias, éducation nationale. L'Union communiste libertaire sera également aux côtés d'Isabelle dans son combat pour la vérité et la justice pour sa sœur et ses deux parents, assassinés par l'ex-conjoint en 2014. En octobre, elle attaque l'État en procès pour sa responsabilité dans ses féminicides et sa non-assistance à personne en danger, malgré les appels au secours au moment où l'assassin allait agir. L'Union communiste libertaire relaye l'appel des féministes de Saint-Denis à ce que dans chaque ville, les femmes se rendent dans les commissariats pour exiger vérité et justice pour toutes les sœurs, les mères, les filles, les collègues, les voisines qui ont été assassinées. L'émancipation des femmes sera l'œuvre des femmes elles-mêmes. Et du coup, elle signe « En tant que libertaire, nous pensons que seules les luttes auto-organisées et l'autogestion nous permettront de sortir de tels systèmes de domination contre ceux qui en profitent et qui ont tout intérêt à les préserver. » En précisant qu'un rassemblement devrait être organisé par l'UCL prochainement à Lyon. C'est aussi un peu l'occasion de rappeler que le planning familial du Rhône a dénoncé fin juillet une baisse des subventions en Auvergne-Rhône-Alpes. 3438 euros en moins pour l'année 2019. C'est la baisse de subventions versées par l'État, constatée par le planning familial du Rhône cet été. Une amputation de 30% de l'aide versée par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le Rhône, le budget devrait baisser de 10% chaque année, selon le planning familial, jusqu'en 2026. Dans certains départements de la région, les baisses s'élèveraient cette année à environ 10%, sans garantie de maintien les années suivantes. C'est le cas notamment en Haute-Loire, en Isère, en Ardèche ou encore dans le Cantal. Cette subvention, on le rappelle quand même, finance des actions de prévention et d'éducation à la sexualité dans les établissements scolaires et les centres d'hébergement pour les personnes en situation de handicap notamment. Dans plusieurs départements, elles permettent aussi de financer l'accueil des femmes victimes de violences ou souhaitant avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Du coup, pour toutes ces informations, on souhaite que le Grenelle prenne... Enfin, en fait, on ne souhaite pas grand-chose du Grenelle, mais merci aux associations et aux collectifs féministes et à toute cette mobilisation pour continuer à lutter contre le patriarcat.
Mais en fait, à un moment, ce Grenelle, tu vois, il y a quand même juste un truc, c'est qu'effectivement, il y a eu l'annonce de ce million d'euros, qui quand même fait un peu rire tout le monde. Il y a 100 départements en France, ça fait 10 000 euros si on fait une moyenne comme ça. Enfin, chacun sait globalement que ça peut à peu près conduire à rien. En plus, de là, il doit falloir déduire toutes les dépenses qu'il y a dû avoir pour organiser ce machin-là, Enfin, tout ça est scandaleux quand on le rapporte à peu près n'importe quel chiffre. Le coût du G7, juste pour l'organisation sans les flics, c'était 37 000. Enfin, et ça ressemble juste beaucoup à la politique du gouvernement, c'est-à-dire à faire un truc qui globalement est antisocial, absolument dégueulasse dans toutes les catégories du terme, mais qui continue de dire regardez, on sauve la Amazonie. Alors, enfin, regardez, on aide les femmes, 1 million d'euros en fait à qui on parle. Enfin, c'est débile. On vous déteste.
On vous déteste.
Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif. Je me lève chaque matin comme un jour de manif. Je t'assure la sauvage va faire le tour de la ville. J'ai vu des meufs énervées casser toute la rue. Et des petits hauts comme ça qui te goûment sa vie. Va à l'âge et t'écoutes ce que ça dit. Car à l'école on s'en fout ce que t'as dit. Faut te bouger, t'es pas au bout de ta vie. Tu voudrais pas finir comme ce plouc raciste. On veut pas de boss, pas de vie de chameau. L'ordre et la loi ça fait mal comme un tir de flashball. Ils épuisent le magot. Une pensée aux frères en ont pris dans le cachot. Non faut pas dire que c'est du père d'avant. C'est pas du temps qu'on gaspille comme le budget de la France. Non faut pas dire que c'est du père d'avant. C'est pas du temps qu'on gaspille comme le budget de la France. Comme ma maman, je suis pas capitaliste. J'ai moins l'argent aux nanas que je câline la nuit. C'est pas marrant de voir un ami partir dans le quart de ses stars à une manif. Ah oui, ouais, dans cet état, on s'en fout de ta vie. Une entreprise vaut le double de ta vie. Ouais, dans cet état, on s'en fout de ta vie. On s'en fout de ta vie. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Lapider les keufs, péter les banques, brûler les cravates et buter les patrons. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, bitches. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, fils de flic. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, aka, baka, baka. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif. Lapider les keufs, ils ont gazé les mômes, ils ont gazé les mères. Péter les banques, ils vont tirer vos fins de mois. Brûler vos cravates, trouver un autre travail. Buter les patrons qui ont usé les darons. 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 Lapider les keufs, ils ont gazé les mômes, ils ont gazé les mères. Péter les banques, ils vont tirer vos fins de mois. Brûler vos cravates, trouver un autre travail. Buter les patrons qui ont usé les darons. 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 Je me lève chaque matin comme un jour de manif, bitches. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, fils de flic. Je me lève chaque matin comme un jour de manif, baga, baga, baga. J'aimerais que tous les jours soient un jour de manif, bitches. Juste comme Poutine, gras comme Leonidas, bitches. Juste comme Poutine, gras comme Leonidas.
On fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Et oui, c'est même l'agenda de rentrée. Alors, vous avez suivi tout ce Canu Info, donc vous savez qu'est-ce que vous faites demain. Demain, vous vous mobilisez contre l'expulsion de l'Amphizade. On vit ici, on reste ici. Et du coup, vous allez à la manifestation qui part de la métropole 20 rue du Lac dans le 3e, en direction de la préfecture pour exiger un logement et des papiers pour tous et toutes. Et là, vous vous dites que vous avez quand même entendu de très très chouettes chansons. Super, puisque lundi, c'est la reprise de la chorale des Canulars. Vous pourrez donc aller chanter des chants révolutionnaires et aussi participer aux luttes actuelles, voire réécrire des chants. Tout est permis dans cette chorale révolutionnaire. Pour ça, rendez-vous à partir de 19h, 91 rue Montesquieu, à l'atelier des Canulars, dans le 7e arrondissement. Vous vous remettez du coup de la cuite que vous êtes prête à la chorale pendant 2-3 jours, et vous arrivez au jeudi 12 septembre, que se passe-t-il le jeudi 12 septembre? Et là, vous vous dites quand même, ben, le droit du travail, ben oui, la rentrée, le travail, et donc vous allez à la mobilisation pour l'affaire Tefal et la protection des lanceurs d'alerte. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Pour la défense des missions et de l'indépendance de l'inspection du travail et pour la relaxe de l'inspectrice du travail, mobilisation le jeudi 12 septembre à partir de 12h devant la cour d'appel de Lyon, rue du Palais de Justice, qui doit rejuger l'affaire sur le fond à la lumière de la loi visant à protéger les lanceurs et lanceuses d'alerte. Si on veut être un peu plus clair, c'est une inspectrice du travail qui a dénoncé des manières dont l'entreprise Tefal avait de traiter ses salariés et qui du coup se retrouve devant la justice. Et donc pour ça, eh ben, évidemment, on va la soutenir. Le programme de la journée, 12 heures pique-nique prévu par les organisations. Pardon ? Par les organisations syndicales, conférence de presse, prise de parole intersyndicale et syndicale. À 13h30, c'est le début de l'audience. À 14h, la pièce de théâtre par la compagnie LACSE, laboratoire d'artistes créateurs sympathiques et engagés sous le titre La Grande Muette. Après, du coup, vous demandez qu'est-ce que vous faites le soir. Ça y est, vous êtes chaud patate, vous êtes allé à la mobilisation, vous avez fait le pique-nique, vous avez fait l'audience à la cour d'appel et vous dites non mais là, il faut continuer des trucs militants. Eh bien, vous avez le choix et ça va être difficile, tout est encore dans le 7e. Vous pouvez soit aller écouter la présentation débat avec Alastair Emmens sur Ne travaillez jamais, la critique du travail en France, parce que franchement, après la mobilisation de l'affaire Tefal, évidemment, vous ne voulez plus jamais travailler. Et donc lui, vous pouvez le retrouver au Clameur à partir de 20h, autour de son livre « Ne travaillez jamais, la critique du travail en France » de Charles Fourier à Guy Debord, donc pour rencontrer Alastair Emmens. Vous en avez marre de parler du travail, mais vous avez envie de rester dans une perspective révolutionnaire, peut-être un peu plus littéraire, il n'y a pas de souci. Là, vous allez à la Griffe, 4 rue de la Griffe, toujours dans le 7e, et vous allez pouvoir rencontrer Sarah Edard. Franchement, quelle chance. Elle a écrit « La morsure du coquelicot », qui est un roman qui est magnifique, qui est une écrivaine et journaliste algérienne, anarchiste et féministe, qui, dans son dernier ouvrage, donc « La morsure du coquelicot », livre un récit de femmes et d'hommes en lutte contre un état répressif, autoritaire, face auquel la lutte armée est devenue une nécessité. C'est un roman d'anticipation qui fait l'écho aux insurrections récentes et met en avant la désobéissance au travers d'une écriture poétique acérée et brutale. On s'arrête ici puisque vendredi prochain, vous retrouverez le Canu Info du vendredi pour la suite de l'agenda.
Canu Info du vendredi qui, contrairement à ce qui est tout sous-entendu sur le thème de gens qui boivent un peu et tout, est un club d'assets.
Et vous pouvez d'ores et déjà noter la date du 21 septembre.
Qu'est-ce qui se passe?
Il se passe que c'est la fête de soutien à Rébellion.
Et c'est quoi, Rébellion?
Et voilà, c'est le magnifique site d'info lyonnais, là où l'info est vraie. Et mais rigolez pas, c'est vrai. Ça va se passer à Grande Zéro. Il y aura plein de monde, plein de collectifs, de la musique, de la nourriture, et enfin de quoi manger, de quoi boire. Et voilà. Et on peut même. J'ai pas la programmation en tête, mais je peux vous dire.
Alors, en tout cas, on peut vous dire que c'est au Grande Zéro, c'est 60 rue Bollène, je pense, à Vaux-en-Velin. C'est à partir de 18h, notamment parce que c'est aussi des rencontres politiques. Vous rencontrerez des tables de presse, vous pouvez rencontrer des animateurs et des animatrices de Radio Canu, peut-être du Canu Info du vendredi.
Ce sera très exclusif.
Avant de pouvoir manger avec le cartel des cantines, puis d'écouter de la musique, c'est des rencontres à la fois conviviales, politiques et festives. Que demander de plus?
Voilà.
Je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAP.
Canu Info du vendredi.
Eh bien, bonsoir Marcus et merci beaucoup pour ta question. Alors, ACAB, C-A-B, ça veut dire ce soir l'amphizède contre Areva et Blanqueur. Bonne soirée Marcus, bonne soirée à toutes et tous et à la semaine prochaine. Merci.